Radio Open FM. L'Europe et nous, infos, conseils et actu. Passez à l'heure européenne avec la Maison de l'Europe en Limousin.
Et le retour de Jean-Pierre Foultier avec nous. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Et nous allons partir sur une nouvelle série ensemble à partir de cette semaine. Vous nous avez déjà emmené au musée, au cinéma, à l'opéra. Alors, où va nous conduire cette nouvelle série de chroniques culturelles autour de l'Europe ?
Dans le monde sérieux et austère de la science. Nous verrons tout de même que la science peut nous offrir quelques sourires inattendus. Nous consacrerons donc ces chroniques à la pensée scientifique européenne.
La pensée scientifique de l'Europe, donc.
Oui, parce que si l'on peut dire que si la science et la technologie ne sont pas nées exclusivement en Europe, l'astronomie et les mathématiques étaient apparues bien des siècles auparavant à Babylone et en Égypte, et de l'Antiquité au Moyen-Âge, les Chinois inventeront entre autres l'imprimerie, la boussole et la poudre à canon. C'est bien en Europe que s'est forgée tout de même une vraie pensée scientifique qui s'appuie, nous le verrons, sur l'esprit critique et l'expérimentation notamment.
Alors, où allons-nous mettre le curseur sur la pensée scientifique européenne ? À quelle époque ?
Dans l'Antiquité grecque. Et les noms que nous pouvons prononcer sont autant de noms de philosophes que de scientifiques, tant les deux domaines intellectuels sont alors indissociables.
Des noms, donc.
Thalès, Pythagore, le carré de l'hypoténuse.
Ça nous rappelle quelques petits souvenirs.
Hippocrate, Aristote, Euclide, Archimède, ces noms-là devraient effectivement nous rajeunir un peu. Des philosophes qui cherchent à comprendre le monde et des scientifiques, mathématiciens ou physiciens, qui cherchent à expliquer le réel. Ce sont ces hommes de pensée et de science qui mettront l'accent sur la nécessité de l'observation et de l'expérimentation d'une part, notamment en astronomie et physique, et d'autre part de la démonstration, en mathématiques surtout, qui font entrer la science dans le domaine de la pensée raisonnée en la détachant des croyances, des a priori. Un conflit entre science et religion qui, nous le verrons, se prolongera au cours des siècles.
Alors justement, si on se faisait un petit saut de quelques siècles.
Allons-y, sautons.
Et nous voilà arrivés, d'un seul coup, au Moyen-Âge.
Au 12e et 13e siècle, dans une période que l'on a présentée souvent comme confuse et obscurantiste, une époque aussi où s'est produite, quelques siècles plus tôt en Europe, la conquête du sud de l'Espagne par les Arabes qui vont implanter à Cordoue, à Grenade, une civilisation rayonnante sur le plan intellectuel et où des savants comme Averroès participeront à la diffusion de leur savoir, en particulier dans le domaine des mathématiques, les fameux chiffres arabes et le système décimal. Dans l'Occident latin, en France, en Italie, les connaissances grecques et arabes se diffusent et les penseurs de ce temps sont essentiellement des philosophes et théologiens comme Thomas d'Aquin qui s'efforce de concilier foi et raison.
Il essaye, mais il y a donc ce fameux conflit entre la science et la religion.
Oui, un conflit aigu dans les domaines de la physique et de l'astronomie dont l'exemple le plus célèbre sera celui de Galilée au XVIIe siècle, mais qui avait été amorcé quelques siècles plus tôt à l'époque de la Renaissance par la théorie du moine polonais Copernic, selon laquelle la Terre tournait autour du Soleil. C'est aussi un peu un conflit entre anciens, détenteurs selon eux de la vérité divine, et modernes, défenseurs de la science et de la pensée humaniste qu'elle accompagne.
Si je dis pas de bêtises, Galilée a même été condamné.
Oui, Galilée était un mathématicien, physicien et astronome italien qui, par la méthode de l'expérimentation, il avait mis au point le premier microscope et la lunette astronomique. Donc par la méthode de l'expérimentation, mais aussi grâce aux découvertes de Christophe Colomb et des grands explorateurs, contredit la thèse que l'on dit géocentrique, officielle de l'Église et de son bras armé, l'Inquisition, selon lesquelles la Terre se trouverait immobile au centre de l'univers. Et pourtant, elle tourne, fait-on dire à Galilée. Il fut jugé, dut abjurer, renier ses propres convictions pour éviter tout simplement le bûcher.
Oui, c'était pas plus mal. On va poursuivre notre voyage dans les siècles ?
Oui, nous arrivons au 18e, ce siècle des Lumières que nos chroniques ont maintes fois évoqué. La science y est revendiquée par les philosophes et l'encyclopédie de Diderot notamment permettra de la diffuser dans l'ensemble du continent européen. une science qui doit conduire au progrès de l'humanité et qui s'affirme en réaction aux croyances et à l'obscurantisme qui leur est alors associé. Nous en reparlerons la semaine prochaine quand nous évoquerons le débat sur les théories de l'évolution. Une science également dont le domaine s'élargira à ce que l'on appellera ensuite les sciences humaines, l'histoire, la psychologie, puis les sciences dites sociales, la sociologie, l'ethnographie, etc. Ces sciences qui se donnent pour mission d'étudier scientifiquement les comportements humains et sociaux. Ces sciences sociales connaîtront un essor au XIXe siècle avec, notons-le, le philosophe et théoricien allemand Karl Marx, qui développe la thèse d'un matérialisme scientifique. L'Europe apparaît bien donc dans ce domaine comme le berceau de la pensée scientifique moderne, et nous en reparlerons la semaine prochaine.
L'art du teasing, donc je vais rester très scientifique, très rationnel et dire à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'était l'Europe et nous, info, conseil et actu, pour construire ensemble la communauté européenne de demain. Avec la Maison de l'Europe en Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges, 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.